VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui du vendredi 22 novembre 2019. Et Kia Badou avec vous, voici les titres. Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour départager 12 candidats à la présidence. 7 membres de l'équipage d'un navire américain de pétrole ont été kidnappés au large de la Guinée équatoriale. En République démocratique du Congo, l'OMS a averti que l'insécurité empêche ses équipes de mettre un terme à l'épidémie d'Ebola. Au Liban, le 76e anniversaire de l'indépendance marqué par la poursuite de la contestation. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. En Guinée-Bissau, près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche dans ce pays d'1,8 million d'habitants pour le premier tour de la présidentielle. Les électeurs doivent départager 12 candidats, dont le président sortant, José Mario Vache. Environ 6 000 soldats et policiers ont voté hier, précision Nathalie Barge.
Des 12 candidats en lice, les favoris sont des acteurs de toutes les crises politiques qui ont ébranlé le pays ces dernières années. Il s'agit notamment des anciens premiers ministres Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC, et Carlos Gomes Jr., chassé du pouvoir par un putsch en 2012, ou encore de Nuno Nabiam, à la tête d'une dissidence du PAIGC. D'après la Commission nationale électorale, plus de 6 000 membres des forces de défense et de sécurité étaient appelés aux urnes hier. Quelques 1 500 soldats et policiers en uniforme ont voté dans le calme dans les 3 centres de vote à Bissau. Leurs votes ont été comptabilisés, mais les résultats seront publiés après le scrutin de dimanche. Les premières tendances sont attendues en début de semaine et les résultats officiels provisoires le 27 novembre. La date du second tour est fixée au 29 décembre.
Le président camerounais Paul Biya a présidé ce vendredi à Yaoundé l'ouverture d'un sommet extraordinaire de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui regroupe 6 pays pour débattre notamment de l'avenir du franc CFA. Après les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'Afrique centrale de questionner la pertinence d'une monnaie aux réserves de change déposées en France et convertibles en euros, présentée par beaucoup comme héritée de la colonisation. Nous y reviendrons plus en détail dans notre partie magazine. Le Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies a indiqué être confronté à de graves difficultés d'accès aux personnes déplacées et réfugiées au Burkina Faso en raison de l'insécurité grandissante dans le pays. Par ailleurs, le ministère burkinabé de la Défense s'est plaint le 18 novembre au chef de la diplomatie malienne d'une répression de l'armée malienne en territoire burkinabé au cours d'une opération dans un village frontalier. Dans un communiqué, l'armée malienne avait expliqué avoir poursuivi des assaillants ayant attaqué le village de Bidi jusqu'à leur base au Burkina Faso qui a été démantelée. Bilan dressé par les forces armées maliennes, 10 morts, 20 arrestations et 43 motos brûlées. Par ailleurs, l'armée portugaise va prendre le commandement courant décembre de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali pour 6 mois, succédant ainsi à l'Autriche et avant de passer le relais à la République tchèque. C'est ce qu'a indiqué la mission à Bamako. Cette dernière est composée de quelques 620 personnes de 28 pays différents, dont 22 membres de l'Union européenne. À Bamako toujours, deux membres présumés d'un groupe djihadiste ont été interpellés jeudi, où ils sont soupçonnés d'être venus acheter du matériel et faire du repérage en vue d'éventuels attentats et d'avoir tenté d'obtenir la libération de combattants incarcérés. C'est ce qu'ont indiqué les services de sécurité maliens. Je vous le disais en titre, enlèvement Guinée équatoriale, 7 membres d'un équipage composé de Sud-Africains, Philippins, Serbes et Camerounais d'un navire employé par le géant américain du pétrole ExxonMobil ont été kidnappés mercredi par des pirates au large du pays. C'est ce qu'a annoncé Malabo. L'enlèvement est survenu dans une zone considérée comme le nouvel épicentre de la piraterie maritime mondiale. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a averti aujourd'hui que le regain d'insécurité empêche ses équipes et celles de ses partenaires de mettre un terme à l'épidémie de fièvre Ebola. Alors, Eric Marignac va nous en dire plus.
Le docteur Mike Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS, a déclaré que dans certaines zones, l'épidémie d'Ebola est actuellement corrélée avec la violence qui y sévit, ajoutant que l'insécurité empêche de suivre les contacts des personnes malades. Il souligne que ce regain de violence est notamment lié aux affrontements entre l'armée congolaise et les milices ADF. Monsieur Ryan a par ailleurs estimé que les manifestations de la population contre la violence sont compréhensibles, mais a fait remarquer qu'elles perturbent également les opérations de lutte contre Ebola. Cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué près de 2200 personnes. La panoplie de moyens de lutte contre ce virus s'est récemment enrichie d'un deuxième vaccin. Le nombre de cas hebdomadaires a diminué progressivement, avec seulement 7 cas signalés au cours de la dernière semaine.
Toujours en République démocratique du Congo, des manifestants ont visé un camp des Nations Unies ce vendredi à Beni, dans l'est du pays, où la police a violemment dispersé leur mouvement de colère face au massacre attribué aux miliciens ADF. Ils dénoncent l'impuissance de l'ONU et de l'armée congolaise contre ces massacres qui ont tué plus de 60 civils dans les régions depuis début novembre, dont au moins 7 à Beni mercredi. Au Mozambique, la RENAMO exige la démission du président Philippe Nyusi, accusé d'avoir bénéficier de financements illégaux. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous mettons le président au défi d'obéir à cette exigence, a lancé José Mantegas, porte-parole de la RENAMO. Réélu le mois dernier, Philippe Nyusi a été mis en cause par un homme d'affaires libanais, Jean Boustany, jugé devant un tribunal fédéral à New York. M. Boustany a identifié à la barre le chef de l'État mozambicain dans une liste codée de bénéficiaires présumés de commissions selon le compte rendu de l'audience diffusée par une ONG anticorruption. NUY, c'est l'actuel président Philippe Nyusi et c'était pour financer sa campagne électorale. L'enquête du FBI a évalué à 1 million de dollars la somme qui lui a été affectée. La justice américaine accuse Jean Boustany d'avoir versé des dizaines de millions de dollars au régime de Maputo pour obtenir en 2013 et 2014 des contrats de livraison de navires de pêche et de patrouilles militaires. Le Mozambique a financé ses achats par un prêt de 2 milliards de dollars.
En Libye, les Nations Unies ont fait état d'une recrudescence de départs de migrants après de nouveaux raids sur Tripoli et des environs de la capitale libyenne, théâtre d'affrontements meurtriers depuis avril. En l'espace de 48 heures, c'est au moins 9 bateaux transportant plus de 600 migrants qui ont été recensés. En Algérie, le mouvement populaire de contestation du régime est entré ce vendredi dans son 10e mois en restant fortement mobilisé dans la capitale où les manifestants scandent leur refus de la présidentielle du 12 décembre prochain, perçu pour beaucoup comme une manœuvre d'un pouvoir contesté pour se régénérer.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Liban célèbre ce vendredi le 76e anniversaire de son indépendance dans une atmosphère tendue. Le pays connaît des manifestations depuis plus d'un mois. Le point avec Abdourahmane Dia.
Plusieurs défilés civils ont parcouru les artères de la capitale Beyrouth, drapeau libanais au vent, en direction de la place des Martyrs, un haut lieu de la contestation. Raison pour laquelle le défilé militaire organisé chaque année s'est transformé en modeste parade dans l'enceinte même du ministère de la Défense, en présence du président Michel Aoun et du premier ministre démissionnaire Saad Hariri. Et la cérémonie protocolaire au palais présidentiel a été annulée. Pour certains, cela constitue en soi une victoire de plus pour le mouvement de contestation qui a déjà entraîné la démission du gouvernement le 29 octobre et empêché l'examen au Parlement d'une loi d'amnistie controversée. Depuis le 17 octobre, le pays vit au rythme d'une protestation sans précédent contre l'ensemble des dirigeants politiques jugés incompétents et corrompus. C'est la première fois que les Libanais, toutes communautés confondues, manifestent massivement sans l'appel d'un parti politique et contre tous les partis, a affirmé une étudiante de 21 ans. Selon elle, c'est ça la vraie démocratie.
Israël, pour la première fois de son histoire, se réveille avec un premier ministre inculpé et de surcroît pour corruption, abus de confiance et malversation dans trois affaires différentes. pire scénario envisagé par Benjamin Netanyahou depuis que la justice a commencé à s'intéresser à lui. Le pape François poursuit sa visite en Thaïlande. Il a mis en garde la jeunesse contre le consumérisme et les dangers de la technologie, appelant aussi l'Église catholique dans ce pays majoritairement bouddhiste à ne pas avoir peur d'adapter son discours pour attirer de nouveaux fidèles. La Thaïlande est l'un des plus grands consommateurs d'Internet au monde, chacun s'y consacrant en moyenne plus de 19 heures par jour sur son smartphone d'après différentes études. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le Cameroun connaît une nouvelle hausse du prix du cacao à 1250 francs CFA le kilo contre 1220 francs CFA. Cette hausse de 30% survient à la fin de la saison des pluies. Elle annonce une embellie dans les ventes de fin d'année. Les prix sont le reflet de la croissance de la demande avec l'arrivée de nouveaux transformateurs dans le pays, surtout dans la zone industrielle du port de Kribi dans le sud. Le Zimbabwe va forcer les importateurs à déclarer leurs sources de devises et ceux qui ne prouveront pas qu'ils ont obtenu l'argent des banques perdront leurs biens au profit de l'État. La vice-ministre des Finances, Clémence Chidoua, soutient que la directive vise à contrer les opérations sur le marché noir. Selon elle, la pratique des entreprises locales d'indexer les prix sur le dollar américain entraîne une hausse de l'inflation qui a atteint 440% en octobre. Le Mozambique a reçu 130 millions de dollars américains de la Banque mondiale pour construire une ligne ferroviaire de 27 km autour de Maputo et acheter des trains au profit de Metrobus. Ce dernier est un système intégré de transport de passagers par train et par bus de la société privée Fleetrail qui peut transporter environ 30 000 personnes par jour et dispose d'une flotte de 100 bus déployés dans diverses parties de la capitale mozambicaine et ses environs.
C'est l'heure de la page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques.
Oui, un match de classement de la CAN des moins de 23 ans. Les Bafana Bafana Espoirs sont venus à bout de leurs homologues ghanéens au tir au but avec 3 tirs réussis contre 2. Le score était de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Cette troisième place permet à l'Afrique du Sud de se qualifier pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Sud-Africains rejoignent ainsi l'Égypte et la Côte d'Ivoire qui jouent la finale de cette CAN des moins de 23 ans ce soir.
La Supercoupe d'Afrique aura lieu au Qatar.
La Supercoupe d'Afrique qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis cette année, aux Amalek d'Égypte, vainqueur de la Coupe CAF se jouera le 14 février prochain à Doha, au Qatar. Ainsi en a décidé la CAF lors d'une réunion tenue hier au Caire. Mortada Mansour, président du Zamalek, avait récemment menacé de boycotter le match s'il était programmé au Qatar, avec qui l'Égypte a rompu ses relations diplomatiques depuis 2017.
Moussa Maraga, désigné meilleur joueur du FC Porto.
Arrivé au FC Porto en 2016, l'international malien a été honoré par le trophée de meilleur joueur de Porto sur l'année civile 2019. Moussa Maraga a crevé l'écran la saison dernière avec 17 buts en 42 matchs, toutes compétitions confondues. Malgré ses buts importants, son club a fini deuxième derrière le Benfica avec une différence de 2 points. À l'entame de cette nouvelle saison, Moussa Maraga a déjà planté 4 buts en 8 matchs dans le championnat portugais.
Cyclisme, les étapes du Tour du Rwanda 2020 ont été dévoilées.
Oui, pour une nouvelle fois, le peloton va parcourir les routes et les paysages du pays des mille collines. La plus longue sera courue entre Rusizi et Rubavu lors de la quatrième étape sur 206,3 km. En plus du pays hôte, le Rwanda, des formations venues d'Angola, du Cameroun, d'Algérie, d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Afrique du Sud, d'Allemagne, de la France, d'Italie et des États-Unis seront de la partie. La compétition se tiendra du 23 février au 1er mars prochain et consacrera le successeur de Merawi Kudus, vainqueur du maillot jaune en 2019.
NBA, Giannis, intraitable face à Portland.
Le grec d'origine nigériane a établi un record personnel de 15 passes décisives et a réussi son deuxième triple-double de la saison. Gianni Antetokounmpo a signé aussi 24 points et 19 rebonds, permettant à Milwaukee de dominer Portland 137 à 129. Cette sixième victoire consécutive propulse les Bucks à la tête de la conférence Est avec 12 victoires et 3 défaites. C'est le troisième triple-double de la carrière du meilleur joueur de la NBA. Dans l'autre match de la nuit dernière, Phoenix l'a emporté pour la troisième fois consécutive sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, battu 124-121. C'est en revanche le troisième revers d'affilée pour les Suns.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. En Guinée-Bissau, les partisans des 12 candidats à la présidentielle rivalisent d'initiatives pour inviter les citoyens à aller voter. Char, musique dédiée aux candidats, notre correspondante Darika Ling Lopi est allée à la rencontre de jeunes engagés en politique à Bissau.
Musique à fond. Les jeunes partisans du président José Mario Vaz sont réunis à Bissau. Pour Dodo Ndiaye, plus que quelques heures pour tenter de convaincre.
Je milite activement parce que j'ai vu un homme qui en vaut la peine, José Mario Vaz, parce que ses mains sont propres.
Réunion, campagne d'affichage. Depuis un an, le jeune partisan ne compte pas ses heures au service de José Mario Vaz. Et il n'est pas le seul. Cheveux bouclés et allure soignée, Awa Kamara nous accueille dans son bureau du QG de campagne. À 33 ans, elle fait partie de la garde rapprochée du chef de l'État.
Personnellement, j'espère que José Mario Vaz sera réélu. Il pourra réaliser son programme et aider la Guinée-Bissau.
Seulement, les précédentes élections ont été boudées par les plus jeunes. Lors des législatives de mars dernier, le taux d'abstention a dépassé les 15%. Mais Awa Kamara en est convaincu, le changement passe par les urnes.
Beaucoup de jeunes disent qu'ils ne vont pas voter. C'est parce qu'on sait d'avance qui va gagner. Mon conseil, c'est de dire aux jeunes d'aller voter.
Pourtant, cette génération entend faire bouger les lignes. Niveau quartier général, mais toujours la même ambiance. Nous nous rendons à deux pas de la présidence, au siège du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ici, on milite pour Domingo Simonge Pereira, l'un des principaux opposants à José Mario Vaz.
En tant que jeune, on nous a donné la responsabilité de faire du porte-à-porte pour dire aux autres d'aller voter. Domingo Simoes Pereira nous a invités à le rejoindre, à participer pour faire avancer le pays.
Junior Keba Lopez est déterminé. Même chose pour Gina Boumani, 25 ans.
Domingo Simoes Pereira est quelqu'un capable de diriger le pays, quelqu'un qui saura résoudre les problèmes de la société, quelqu'un qui met en avant tout le monde sans distinction et mène une politique en faveur des femmes.
Sono hurlante, quel que soit leur parti, les jeunes militants bissaoudiniens continuent de sillonner la capitale et ce jusqu'à vendredi soir, dernier jour de campagne. Darika Ling Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Vendredi s'est tenu à Yaoundé un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC, mais ses ressortissants se plaignent toujours de la circulation des biens et des personnes. Pour toucher du doigt cette réalité, rendons-nous dans deux marchés de Yaoundé, qui sont des points d'approvisionnement en denrées alimentaires à destination du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Reportage Emmanuel Vintap.
Une file de camions bondés de filets d'oignons au marché 8e à Yaoundé. Amadou expédie cette denrée au Gabon et au Congo depuis 23 ans. Ces dernières années, l'activité, dit-il, est jonchée d'entrave.
Je sais qu'en 1996, on partait avec 400 000 jusqu'à Libreville. Maintenant, il faut 2 millions de la même marchandise, même quantité de marchandises. La police, à partir d'un balmaillon, on donne chaque contrôle 20 000 jusqu'à la Libreville. Au Cameroun comme Congo, c'est la même chose. Je ne sais pas le problème, ça vient d'où. Mais la douane, on n'a pas de problème.
L'entrave à la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC a également porté un sérieux coût financier à Sylvestre Etundi, cet expéditeur de vivres frais au Gabon qui s'approvisionne au marché d'Ofundi à Yaoundé.
Moi, j'ai une camionnette pour quitter Yaoundé. Pour arriver au Gabon, il faut au moins 800 000 francs de frais de route. Et ce camion doit rentrer au Cameroun pour venir recharger. Ça rentre à vide. Il faut au moins 210 000 de frais de retour. C'est très difficile. On n'arrive pas à s'en sortir parce qu'avant, la route était moins chère. Tu pouvais avoir 200 000, tu mettais ton carburant, tu arrivais au Gabon. On voudrait que cette ligne de circulation soit effective parce que c'est sur papier jusqu'à présent.
Pour ne pas faire faillite, le tonnage des camions se fait désormais hors norme. Ousmane Mountou est chauffeur de camion. Il affirme être conscient de la situation tandis qu'il s'apprête à prendre le volant pour un énième voyage vers Libreville.
Vous voyez déjà mon chargement qui est déjà là. Je vois que je déborde déjà le chargement. C'est tout à fait normal. Si un agent me verbalise pour un chargement débordant, je ne peux pas l'accuser. Parce que moi-même, je connais déjà le niveau où il faut arrêter le chargement. Bon, si on me verbalise, je vois que c'est tout à fait normal puisque je suis en infraction.
La circulation des personnes, des biens et des capitaux a été adoptée en 2017 en Guinée équatoriale. Deux ans après, elle n'est pas totalement entrée en vigueur. Des analystes comme l'historien économique Raymond Ebalé de l'Université de Yaoundé 1 relèvent un certain nombre de contraintes dans ce domaine.
Il faut qu'il y ait une volonté politique des chefs de l'État de vouloir cette intégration. Vous voyez, lorsque cette volonté va se faire, je pense que le reste suivant, il ne restera plus qu'à mettre en place des mécanismes de facilitation qui vont permettre maintenant à l'économie de circuler.
La frontière terrestre Cameroun-Guinée équatoriale a été fermée plus d'une fois aux grandes dames des commerçants camerounais dans la ville frontalière de Kiyoussi. Emmanuel Jolouta pour VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Du 18 au 24 novembre, le monde commémore la semaine du bon usage des antibiotiques. Cette semaine a été instituée pour mener des actions afin de réduire la résistance aux antimicrobiens, dont les antibiotiques. Au reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson, récit Michel Joseph.
La résistance aux antimicrobiens, en abrégé RAM, a été au cœur de cette table ronde. Les participants ont relevé les risques aussi bien pour la santé humaine que pour la santé animale. Même si la RAM est un fléau invisible, elle constitue une réelle menace contre l'humanité, nous dit le docteur Kossi Malabo, président de l'Ordre des vétérinaires du Togo.
Aujourd'hui, cette utilisation abusive des antibiotiques crée des problèmes de résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aucun antibiotique ne marche, ben, du coup, nous serons détruits par les maladies, du moins par des maladies infectieuses. Et c'est là toute la problématique.
Selon les acteurs, il y a une utilisation abusive et non conforme des antibiotiques, ce qui conduit inévitablement à des résistances. Écoutons le docteur Innocent Pecto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo.
Les constats au niveau des officines de pharmacie, c'est effectivement la demande spontanée d'antibiotiques. Et quand nous prenons le temps de faire notre travail d'écoute et d'échange avec le patient, on se rendait compte que les antibiotiques étaient demandés pour des maux de tête, des maux de ventre, de la fatigue. Et tout cela.
Suite à ces constats, depuis un certain temps dans les officines, les pharmaciens ne vendent plus les antibiotiques sans une prescription médicale. Dimiline Badambena Wantanimon est pharmacienne à Lomé.
Nous demandons plutôt que lorsque la population vient en officine, qu'elle soumette son besoin de santé et le pharmacien, dans la limite de ses compétences et de ses connaissances, jugera du médicament utile pour pouvoir effectivement soulager ou jugera de l'orienter vers une structure de santé pour une meilleure prise en charge.
La table ronde a fait des recommandations, au nombre desquelles l'amélioration des protocoles de prescription, l'intégration des modules sur la rame dans les curricula des étudiants en médecine et pharmacie et la sensibilisation de la population sur les dangers de l'utilisation anarchique des antibiotiques. La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Washington a vécu une semaine de témoignages lors des audiences publiques en vue d'une mise en accusation du président Trump. Les républicains rejettent les allégations selon lesquelles le président aurait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur un rival politique en échange d'une aide militaire. Patsy Wida-Kutswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, examine les effets de cette stratégie sur l'opinion publique et les partisans de Trump. Le récit de Lionel Gaïma.
Est-ce que le président Donald Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine en échange de l'annonce d'une enquête sur Joe Biden, un rival politique? Cette semaine, de nombreux témoins ont déclaré devant les parlementaires qu'il y a des proches de M. Trump, notamment son avocat personnel Rudy Giuliani et son ambassadeur auprès de l'Union européenne Gordon Sondland, ont fait pression sur Kiev. Jeudi, Fiona Hill, ancienne experte de la Russie au Conseil national de sécurité, a évoqué sa frustration face à Sondland en juillet, alors qu'il tentait de proposer aux Ukrainiens une réunion à la Maison-Blanche en échange d'une enquête sur l'ancien vice-président Joe Biden.
Il était impliqué dans une affaire de politique intérieure et nous étions en politique étrangère et ces deux choses ne sont pas pareilles.
Fiona Hill a également rejeté une allégation républicaine selon laquelle Kiev et non Moscou étaient derrière l'ingérence des élections de 2016 aux États-Unis.
C'est un récit fictif qui a été propagé par les services de sécurité russes. La triste vérité est que la Russie était la puissance étrangère qui a systématiquement attaqué nos institutions en 2016.
Le président Trump, de son côté, n'a pas varié dans son discours.
Voici le dernier mot du président des États-Unis. Je ne veux rien du tout.
Monsieur Trump fait référence au témoignage mercredi de l'ambassadeur Sondland sur une conversation téléphonique au cours de laquelle il lui avait dit qu'il ne voulait aucune contrepartie. Jennifer Victor enseigne les sciences politiques à l'université George Mason.
Ils ont beaucoup tenu ce langage, malgré les nombreux témoins qui ont décrit essentiellement un échange donnant-donnant. Dans le même temps, ils disent oui, il y a eu échange, il n'y a pas eu de contrepartie, comme si c'était en quelque sorte le critère pour décider si c'était approprié ou pas.
L'ambassadeur Sondland a rappelé avoir eu une conversation avec Trump le 9 septembre, le jour même où les démocrates de la Chambre ont annoncé qu'ils vont ouvrir une enquête sur le gel de l'aide à l'Ukraine. Cela pourrait indiquer que Trump voulait s'exonérer avec cet appel, mais de tels détails n'intéressent pas la plupart des Américains. Hans Noel de l'Université Georgetown.
Les tenants et les aboutissants sont difficiles. Est-ce que Trump est pour ou contre l'Ukraine? Que se passe-t-il exactement? C'est difficile à comprendre pour la part des électeurs, raison pour laquelle ils vont faire appel à des sources fiables pour comprendre. Les démocrates vont se tourner vers les sources démocrates et les républicains vers les sources républicaines.
Les sondages montrent que la majorité des Américains disent que rien de ce qu'ils entendent de cette enquête ne leur fera changer d'avis.
Ainsi s'achève ce journal avec le titre Mon étoile, l'artiste Lanaya. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma était à la mise en onde, Aidan Otkou à la console et c'était Ekia Badou en direct de Washington. Excellente soirée à vous à l'écoute de VOA Afrique.